Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, chers étudiants, c'est bien qu'il y ait des étudiants. Et oui, parce que c'est le futur pour nous, les étudiants. Nous sommes déjà le passé, ou en tout cas, nous sommes dans une ligne qui... Voilà. On se réjouit donc toujours d'avoir des étudiants. Je suis Hubert Seyant, je suis universitaire, mais ici, ce soir, je suis... directeur des éditions préventiques. Voilà. Directeur des éditions préventiques, c'est une maison d'édition spécialisée qui a une revue, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui s'appelle Préventique, et puis qui fait quelques livres, peu, nous en faisons peu, mais nous en faisons peu parce que je suis de ceux qui pensent que sur les sujets du livre professionnel, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de bonne qualité. Je le dis très sincèrement, on reçoit énormément de choses et n'importe quoi est souvent publié. Nous en publions peu et nous pouvons, je peux dire que les auteurs qui nous font confiance sont des auteurs qui ont une très grande expérience et également une très grande rigueur d'écriture. Ces sont les deux conditions que nous souhaitons voir, si vous voulez... dans les livres que nous éditons. Des gens d'expérience qui n'ont pas donc que de la connaissance, qui ont autre chose. C'est-à-dire que nous n'éditons pas, si vous voulez, l'ouvrage du thésard. D'autres éditeurs peuvent faire des très belles choses. Nous, ce n'est pas le cas. Le livre que nous présentons ce soir est un livre qui vient d'un auteur expérimenté. Il sourit quand je le dis, parce qu'il a passé toute sa carrière... à travailler sur les accidents avec des équipes, il vous le dira mieux que moi, sur les grands accidents technologiques avec des équipes d'EDF notamment. C'est un homme qui est excessivement connu dans le petit monde de ce qu'on appelle l'accidentologie. Il a publié énormément de choses aujourd'hui et en même temps qu'il publiait cet ouvrage que nous présentons, il publiait, donnez-moi mon cher Michel, un roman que j'ai lu et qui est présenté d'ailleurs, que j'ai présenté dans le dernier numéro de la revue Préventique, un roman, une enquête explosive. C'est charmant, c'est soutenu, on a envie d'aller jusqu'au bout, on a envie de le finir, ce qui n'est aujourd'hui plus le cas pour beaucoup de livres qui s'appellent des romans. Et donc je le conseille aussi... à la lecture. Bien entendu, le thème reste celui que l'auteur privilégie. Il a fait tellement d'enquêtes sur les accidents, il a tellement travaillé la causalité qu'il reste sur le même sujet, c'est l'enquête explosive, c'est après une explosion, une enquête. D'ailleurs, moi qui ai beaucoup travaillé la question d'AZF, puisque vous avez un livre aussi, je présentais le livre d'AZF, que nous avions publié également, j'aurais préféré qu'il y ait eu des enquêteurs de la qualité de ceux que présente dans son roman Michel Yuri dans les enquêtes post-AZF. Parce que pour le moins, ce qu'on peut dire, c'est que ces enquêtes étaient de très mauvaise qualité. Enquête, expertise et tout ce qu'il y a derrière, puisqu'aujourd'hui, j'en suis toujours à hésiter... pour savoir s'il s'agit d'un accident, c'est-à-dire d'un fait involontaire, ou s'il s'agit d'un, il faut appeler d'un fait intentionnel qui, pour les juristes, que nous sommes quelques juristes, peut s'appeler un crime. Donc nous hésitons, nous n'avons pas de certitude, même si le tribunal a pu prendre ses positions et ses responsabilités. Alors, Michel Yorick, quand il traque l'accident, il constate, et il va vous le dire mieux que moi, il constate que l'on va très aisément sur les facteurs dits humains. L'homme est toujours en relation avec l'accident qu'il subit ou l'accident qu'il provoque. Il y a toujours un rôle causal. Il y a des hommes dans les organisations. Il vous dira que c'est assez facile de remonter sur la faiblesse humaine. Il vous dira aussi qu'il est assez aisé de montrer que s'il y a eu une coupure, c'est qu'il y a peut-être un couteau, une machine, le couteau qui coupe. Il y a toujours une causalité technique. C'est assez facile. Une explosion, il y a bien de la technique. Mais, et nos parcours et nos réflexions ont été parallèles. Nous nous connaissons depuis longtemps, lui et moi, mais nous ne nous fréquentions pas beaucoup. Nous étions sur des zones, des espaces de travail, des espaces professionnels différents. Mais nous avions exactement la même préoccupation. Moi-même, depuis ma thèse, j'avais montré que si on ne travaillait pas sur les organisations, à la fois pour faire de la prévention, mais aussi pour comprendre les accidents, si on n'allait pas dans la direction des organisations, eh bien, on se trompait. On faisait une analyse superficielle. Mais l'organisation dérange parce qu'elle fait remonter les culpabilités et les responsabilités qui en découlent sur des responsables de très haut niveau. Or, il y a une tradition française qui est absolument soutenue, c'est qu'on ne touche pas aux responsables de haut niveau, jamais. On ne les touche pas. On ne touche que des seconds, sinon des troisièmes ou des quatrièmes couteaux. L'affaire de Barbotan, dans le sud-ouest, pas loin d'ici, il y a bientôt 20 ans, dans l'affaire de Barbotan, nous en avons eu une illustration parfaitement exemplaire. Le grand patron, M. Barthélémy, tel était son nom, il est mort aujourd'hui, de la chaîne thermale du Soleil, avait été mis en cause par certains de ses collaborateurs parce que, disait-il, nous n'avons aucun pouvoir. Nous sommes là pour administrer sur la base des moyens et des orientations qui nous sont données. Mais M. Barthélémy avait un privilège. Il était, vous voyez qu'on parle franc aujourd'hui, il était à la fois l'ami de M. Mitterrand et l'ami de M. Chirac. Alors ça donne des droits qu'aucun d'entre nous ne peut avoir. Vous avez ceux qui souhaitent avoir sur cette affaire de Barbotan des informations peuvent envoyer un mail aux éditions préventiques. On vous enverra tout ce qu'il faut là-dessus, parce qu'on avait beaucoup travaillé aussi déjà sur ce sujet, il y a une vingtaine d'années. Alors voilà, l'organisation dérange, voilà pourquoi on ne va pas dans cette direction. Mais Michel Yori, très attentif et très rigoureux surtout dans ses exigences, n'a pas hésité à passer une grande partie de sa carrière à traquer les déficits organisationnels, les déficits sindinogènes, diraient les grands spécialistes, avec le mot sindinique, qui est aujourd'hui un peu à la mode, les déficits sindinogènes relatifs à l'organisation. Et il est bien vrai que l'organisation, pour faire simple, c'est ce qui relie le comportement des individus et les machines ou les équipements ou tout ce qui va être la cause directe, immédiate, celle que l'on voit, celle qui fait du bruit. L'organisation, c'est le lien. Et donc, on peut comprendre qu'il est quand même fortement étonnant qu'on puisse avoir traqué les comportements humains comme étant des facteurs déterminants des accidents, car telle était pendant très longtemps la seule explication des accidents, qu'on ait pu dire... Ces comportements humains ont conduit la machine à exploser ou encore à couper le doigt, mais qu'on n'ait pas à aucun moment pu penser qu'il y a une organisation dans un établissement et que cette organisation, eh bien, c'est celle qui relie les deux phénomènes. Voilà. Alors, ça paraît tellement absurde qu'on peut comprendre, qu'il y avait des raisons impérieuses et qui sont tout simplement celles que j'ai dites tout à l'heure. Il s'agissait, en évitant d'aller dans l'organisation, de protéger. Alors, Michel Yori, j'ai fait un trop long exposé. Mais j'ai fait cet exposé long parce que j'aime votre livre plus qu'un autre, pour les raisons que je viens de dire. Je n'aurais pas su l'écrire tel que vous l'avez écrit. Mais j'ai tellement écrit sur ces questions, en termes différents, que je me suis réjoui en lisant votre livre et que j'ai immédiatement... souhaiter l'éditer. Vous m'avez fait l'honneur de nous le confier. C'est un grand honneur. Il est dans la collection Synthèse, une petite collection qui, comme son nom l'indique, exprime le souci de dire les choses simplement, de manière courte. Je dis toujours, dans cette collection Synthèse, on doit pouvoir prendre le train pour aller à Toulouse ou pour aller à Paris, 2 ou 3 heures, et on lit le livre. Voilà. C'est l'enjeu. Mais faire de la synthèse, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Démontrez-nous que vous aviez ces qualités-là. Maintenant, okay. À vous, Michel Duret.
Bon, merci à Hubert Seyant qui est beaucoup trop flatteur en ce qui me concerne. Je voudrais juste rappeler, ne pas vous infliger mon CV qui n'a rien d'extraordinaire, mais je suis tombé un peu depuis ma tendre enfance presque dans les risques. J'ai pas fait exprès en rentrant à EDF. Puisque j'ai eu l'occasion de créer successivement un certain nombre de groupes, d'organisations, de départements qui se sont trouvés spécialisés dans le domaine des risques. Cela m'a beaucoup intéressé, et tellement intéressé qu'à un moment, j'ai quitté EDF, voilà, et je me suis installé, comme on dit, à mon compte, et j'ai continué en tant que consultant, mais cette fois-ci dans maintes organisations, et pas seulement dans l'organisation EDF. Alors, bon, pour rentrer on va voir ces deux livres, puisque finalement, c'est un peu une chose assez peu fréquente, qu'on présente simultanément, on va dire, un livre sérieux, dont Hubert Seyant a dit tout le bien qu'il pensait, trop sans doute, donc je dis sérieux entre guillemets, et puis un roman qui est au fond l'illustration des thèses du livre, du premier livre. Alors pour entrer dans ce double livre, je propose de partir rapidement parce que bon, il me semble que c'est intéressant qu'on discute après un moment de toutes ces questions. Partir d'un paradoxe apparent que j'ai quand même vécu et on a eu des débats entre nous, il faut pas croire, y compris au sein d'EDF, puis ensuite Inter-Industrie. Donc sur une sorte de paradoxe apparent. Que je ne peux pas développer complètement, mais enfin, en gros, c'est de dire, d'un côté, les industries ont atteint des performances très élevées, dans pratiquement tous les domaines, à tel point que certains experts disent, et ceci en toute sécurité, à tel point que des experts parlent de systèmes très sûrs, ultra sûrs, bref, un certain nombre de vocables donc très flatteurs sur la sécurité. Quand on interroge des responsables de très haut niveau, en gros, bien sûr, il y a des nuances, mais on nous dit tout est sous contrôle, voilà, les réglementations sont strictement appliquées, etc. Donc voilà un peu donc un tableau au fond un petit peu presque idyllique des choses, grosse performance productive et sécurité assurée. Seulement, voilà, il se trouve qu'il y a des accidents qui surviennent de temps en temps, qui défraient la chronique, plus ou moins graves, parfois des catastrophes. En France, c'est AZF, mais des catastrophes encore plus, meurtrières, comme Bhopal, etc. Et pas forcément, d'ailleurs, des catastrophes, je dirais, limitées dans le temps, vous voyez, c'est-à-dire dues à des explosions ou des relâchements massifs, par exemple, de produits toxiques, mais dans un laps de temps très court, mais aussi des catastrophes qui peuvent s'étaler sur des décennies. Hein. La catastrophe de l'amiante, la catastrophe de Minamata au Japon, etc. Donc, il se passe des choses. Quoi. Alors, comment interpréter ça? Alors, on trouve une thèse qui est assez fréquente dans certains milieux, qui est de dire, bah oui, mais on... Enfin, alors, je le simplifie un petit peu, si vous voulez, pour favoriser rapidement la discussion. Oui, mais on a atteint le risque résiduel. Hein. Bien sûr, bon, le risque zéro n'existe pas. Bon, OK. On a atteint le risque résiduel, c'est-à-dire qu'il y a un résidu incompressible d'accidents possibles. Très peu probable, même hypothétique, dit-on. D'ailleurs, les anglo-saxons ont un mot assez curieux. Ils disent, pour ces accidents, act of God. Hein. Voilà, acte de Dieu, acte divin. Bon, c'est la fatalité, c'est la destinée. Bon, voilà, on a tout fait, et puis il arrive quand même des accidents. Alors, pour sortir un peu de ce paradoxe, qui quand même, auquel j'étais confronté moi-même, parce que sous des formes diverses, c'est parfois ce qu'on nous renvoie, quand on nous dit, mais voilà, bon, bah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Bah oui, mon bon monsieur, on peut pas tout maîtriser, etc. Et donc, assez vite, la question s'est posée en termes de méthode. Et moi, je voudrais insister, c'est un point sur lequel on n'a pas trop insisté dans le livre, parce que peut-être on se réserve d'autres possibilités d'écriture, mais il y a une question de méthode. C'est comment traiter cette question ? Très vite, je me souviens de discussions, notamment avec René Monmaïeul, mon co-auteur, qui était attaché à mon département, que je dirigeais à ce moment-là, on était encore à l'EDF, il faudrait étudier les accidents. Et je me souviens, bizarrement, y compris dans les propres personnes que je dirigeais, on a eu droit à une levée de bouclier. Parce que étudier les accidents, mais les accidents sont passés, on ne va pas revenir sur le passé. Vous voyez le genre de « c'est mortifère ». Bon, voilà le genre d'opposition qu'on nous faisait. Alors, on a tenu bon quand même, et on s'est mis à étudier les accidents. Honnêtement, on a été influencé, je dirais, mais de façon assez lointaine, mais en même temps forte, un peu par ce qu'on pourrait appeler la philosophie de la médecine. Il s'agit de regarder, il y a des accidents, un peu comme des morts. Alors on apprend que quand il y a un mort, on étudie ça, de quoi est-il mort ? C'est très compliqué des fois de savoir de quoi il est mort, etc. Quelle est la cause véritable ? Et donc on s'est dit, il faut se coltiner les accidents. Donc, on est entré dans une phase où, effectivement, on s'est coltiné des accidents, c'est-à-dire alors soit qu'on a eu l'occasion d'étudier nous-mêmes, et ça m'est arrivé un certain nombre de fois, alors accident ou incident grave, soit étudier, on a commencé à découvrir un monde, surtout du côté anglo-saxon, parce qu'il y a une tradition anglo-saxonne très intéressante, y compris pour les étudiants, dans la mesure où, dans ces pays-là, depuis plus longtemps qu'en France, non seulement on étudie à fond les accidents, mais en plus, on publie. Donc, un certain nombre d'accidents sont extrêmement renseignés. Donc, on a commencé, bien sûr, à lire tout ça, et ça a été des chocs. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans ce petit bouquin, finalement, il y a une place très grande. Et d'ailleurs, je remercie Hubert Seyant, parce que c'est lui qui a eu l'idée du titre, qui est finalement, je trouve, merveilleusement simple, « L'accident et l'organisation », parce qu'effectivement, au fond, notre démarche, on pourrait la résumer dans ces deux mots. Alors donc là, on est sur les accidents, et on s'est dit, presque la moitié du livre est réservée à la présentation d'un certain nombre d'accidents, alors qui sont un peu présentés comme des cas d'école, parce que dans la mesure où, d'abord, ils nous ont énormément influencés, c'est-à-dire influencés notre pensée, nos discussions, nos débats internes, sous différents angles, donc on va voir, et donc on a choisi 6 accidents, qui étaient très, très divers, c'est-à-dire volontairement dans différents domaines industriels, et même on verra d'autres activités, mais en même temps avec chacun un angle de vue particulier, puisqu'on voulait, donc, alors sur un aspect peut-être un petit peu plus pédagogique, on l'espère, viser un aspect. Alors par exemple, donc, je les passe en revue très vite, l'accident, la collision de train de Paddington en 99. Et là, on a axé le descriptif de l'accident sur la méthode d'investigation, c'est-à-dire comment, à partir de la collision bizarre d'un train qui grille un feu rouge pour aller vite et qui se percute un TGV qui arrivait en sens inverse, donc ce malheureux train diesel aurait dû s'arrêter pour laisser passer le TGV, il ne l'a pas laissé passer. Donc voilà, Lord Cullen, qui est un éminent juriste britannique, donc on a suivi pas à pas, dans deux énormes rapports, un peu la méthodologie, comment il a fait pour arriver aux conclusions. Deuxième exemple, très intéressant, tout à fait différent, Columbia, la navette spatiale Columbia, parce que là, on rentre, donc je déflore un peu le deuxième sujet, mais vous vous en doutez, qui est celui de l'organisation, parce que dans Columbia, c'est la première fois, à ma connaissance, historiquement, qu'une commission d'enquête, en particulier anglo-saxonne, mais c'est pas là l'important, mais qu'une commission d'enquête affiche ouvertement l'intérêt de l'organisation, c'est-à-dire d'avoir une démarche organisationnelle pour regarder l'accident et pas du tout les erreurs humaines. Et d'ailleurs, on pourrait presque dire qu'elle a été un peu victime, peut-être un peu trop, de cet éclairage trop poussé sur le côté de l'organisationnel. Mais voilà. Et autre point quand même aussi, c'est l'importance de l'histoire. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un enseignement des accidents, c'est que l'histoire de l'organisation est porteuse de sens, permet l'interprétation correcte des accidents. Et bien, étudier l'histoire de l'accident, c'est parfois donc remonter bien loin avant l'accident proprement dit. Troisième cas, c'est Texas City, explosion d'une raffinerie très récente aux États-Unis, où là, on a, un merveilleux exemple, mais c'est pas du cynisme, de ce que les pressions productivistes peuvent amener dans une industrie, dans un système socio-technique. Là, c'est presque un cas extrême, presque, on pourrait dire, si on ne le savait pas, on pourrait dire, mais ils l'ont inventé. C'est un cas, justement, c'est un roman, c'est un cas romanesque. C'est pas possible. Une telle accumulation de défaillances sur le plan de la sécurité, et pourtant si. Quatrième exemple, Davis Best. Donc, alors, vous voyez, les exemples sont pris dans des secteurs de l'industrie très différents. Texas City Raffinerie, donc chimie, pétrochimie. Davis Best Nucléaire. Et là, même chose, une histoire assez ébouriffante, très peu connue, beaucoup moins connue, mais extrêmement intéressante, qui a été très bien analysée d'ailleurs par les autorités compétentes aux États-Unis, où on apprend qu'on est passé à quelques millimètres près d'un accident nucléaire extrêmement grave, parce que notamment le couvercle de la cuve qui tient la pression, les 150 bars grosso modo, on ne va pas chinoiser, mais la pression qui est à l'intérieur de la cuve du réacteur, eh bien, on apprend que le couvercle de cuve, qui fait 16 cm d'épaisseur, c'est pas rien, était intégralement rongé. Intégralement. Donc, de la taille d'un ballon de rugby américain. Donc, vous voyez un peu, c'est, en plus, c'est pas un petit trou de 3 mm de... voilà. Et en fait, la pression ne tenait plus que par une petite peau, ce qu'on appelle en langage technique une petite peau d'acier inoxydable de 4 mm d'épaisseur, qui était d'ailleurs elle-même déjà fissurée. Donc la poussée se faisait à travers le trou, mais il n'y avait plus que cette petite lame d'acier inoxydable qui tenait la pression. Bon. Gros scandale aux États-Unis. Et là, on met l'accent sur une autre particularité qui est souvent le laxisme des autorités de sécurité. C'est-à-dire des autorités officielles, gouvernementales, etc., où là, elles auraient dû, depuis sans doute plusieurs mois, arrêter le réacteur de Davis Best. Mais bon, quand vous lirez le récit circonstancié, vous comprendrez pourquoi. Et un cinquième exemple, très intéressant également, et assez peu fréquent, assez mal connu, et pourtant on en a entendu parler en France, mais indirectement par les accidents d'irradiation qu'il y a eu en France. Donc entre 85 et 87... 1985 et 87, il y a eu 6 accidents graves, très graves, dont 4 morts, de surirradiation de patients aux États-Unis et au Canada sur des machines donc, qui comportaient des défauts. Des défauts de je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, donc, et qui permettaient une surirradiation des patients. Mais alors, quand je dis surirradiation, c'est une surirradiation colossale. C'est jusqu'à, de mémoire, 50 fois la dose létale. Donc, on a tué, entre autres, excusez-moi, je suis un peu direct, 4 patients. De ce fait. Et l'affaire, ce qui est intéressant dans ce cas, toujours organisationnellement, c'est que tout le système organisationnel des hôpitaux, des centres de traitement du cancer, des autorités de sécurité, etc., ça a duré 2 ans quand même, 2 ans avant qu'on se décide en quelque sorte à faire quelque chose. Et puis, dernier cas, excusez-moi, j'ai peut-être été un peu long, mais c'est un cas en creux, en négatif, on n'a pas résisté à présenter donc le cas d'un rapport français qui a été fait, il faut bien le dire, à une époque où encore on mettait moins l'accent sur les aspects organisationnels, et qui est l'effondrement d'une galerie du métro Météore au moment de la construction du métro, naturellement, qui aurait pu être très grave, d'ailleurs, entre parenthèses, vous verrez en lisant le livre. Mais là aussi, c'est intéressant parce que, en fait, on en fait une critique. C'est un peu un contre-exemple. C'est-à-dire, comment aujourd'hui, on ne peut plus rédiger un rapport d'accident tel que finalement on l'a rédigé dans le cas du métro Météore, en tout cas tel qu'il a été présenté officiellement. Alors, pour aller un peu plus vite maintenant, l'intérêt des accidents, c'est que, évidemment, on pourrait nous objecter que tout ça, ce sont des cas particuliers, très intéressants, qui nous apprennent peut-être beaucoup de choses, mais un peu comme des maladies, si on n'arrive pas à trouver en quelque sorte des fils directeurs, des facteurs communs, des régularités dans tout ça, alors justement, c'est le cas. Donc, deuxième partie un peu du bouquin, c'est on va se focaliser un petit peu sur tous ces enseignements qu'on arrive à tirer, mais vous voyez, de façon extrêmement pragmatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de théorie au départ à prouver. On étudie les accidents et on essaye de construire une forme pragmatique qui de points communs, de schémas types, etc. Ce qui nous permet d'ailleurs deux choses, et je m'en tiendrai là si vous voulez. D'une part, de tracer un peu le schéma type d'un accident, avec notamment la période d'incubation, de montrer qu'au cours de cette période, on a encore des chances d'éviter l'accident, notamment en détectant, grâce aux lanceurs d'alerte, enfin là, on développe tout ça dans le livre, et puis un certain nombre de signes précurseurs, de presque accidents, d'incidents graves qui annoncent la catastrophe. Puisque la catastrophe n'arrive jamais, finalement, on n'a pas trouvé d'exemple pour le moment, une catastrophe industrielle, j'entends, n'arrive jamais un peu comme, je ne sais pas, surviendrait un orage dans un ciel parfaitement bleu, vous voyez ? Et on dirait, ah ben mince, crac, l'orage est là, et ça y est, ça tombe. Non, en fait, les nuages s'accumulent peu à peu, très longuement, et donc, voilà, c'est la période d'incubation, le système se dégrade petit à petit, les réglementations commencent à ne plus être suivies, bon, voilà. Donc, voilà, pour ce qui concerne ce petit livre. Et l'effet boomerang positif, c'est que lire des accidents nous apprend beaucoup sur, au fond, les défaillances de l'organisation. Au départ, on ne sait pas. En tout cas, nous autres, moi, ingénieur de formation, j'avais tendance à être assez angélique. Et je me disais, ben, les organisations, les gens suivent les directives, donc tout ça est bien contrôlé, etc. Et en fait, comment une organisation peut dysfonctionner au point de devenir même pathologique? Donc voilà, les accidents nous apprennent ça. Nous apprennent que les organisations ne sont pas ces structures parfaites décrites dans, je ne sais pas, par exemple, dans certains manuels de management, mais qu'elles sont victimes de tout un tas de phénomènes, de processus, de court-circuits organisationnels, de pression interne, de rivalité. Bon, là, je ne vais pas en faire le catalogue pour aller vite, des horreurs organisationnelles. Alors, pour terminer, parce que je ne veux pas trop abuser non plus, dans une autre partie, je voulais... alors, comment on en arrive à un roman? Bon, c'est-à-dire, comment on passe, en somme, de la réalité, enfin, on espère être pas trop loin de la réalité quand on traite ces accidents et ces analyses, et comment et pourquoi écrire un roman sur le sujet? Alors, bon, je me suis posé la question en imaginant que peut-être vous poseriez la question. Je n'en sais rien, d'ailleurs. Alors, bon, peut-être je peux dire plusieurs choses. D'abord, c'est que, bien qu'ingénieur, j'ai toujours été extrêmement fasciné par la littérature, ce qui m'avait valu parfois d'ailleurs des effets contre-productifs pour ma part, parce qu'on disait ce type, il s'intéresse à la poésie, à la littérature, il n'est pas tout à fait net. Donc j'étais donc un peu passionné par l'écriture. Quoi. J'ai écrit depuis mon plus jeune âge, on peut dire, enfin, en tout cas il y a longtemps, hélas pour moi. Bien. Et en 91, je vais juste dire deux mots de ça, j'ai eu la chance d'être édité d'un roman qui s'appelle L'Expulsion, c'était une chance et en même temps une malchance peut-être, a été très très bien accueilli par la critique littéraire pointue. Et c'est peut-être ce qui m'a joué le plus de tours, parce que j'ai cru que j'étais arrivé au sommet de l'affiche, etc. Bon, et après, on redégringole très vite. Donc, j'avais fait paraître L'Expulsion chez Stock, avec donc beaucoup de critiques dans tous les journaux, j'étais à la une dans des tas de... Alors, L'Expulsion racontait l'histoire d'un réel, mais... Là aussi, vous voyez, réalité, fiction, c'est très entrecroisé, très tissé dans ce cas-là, raconter l'histoire réelle d'un berger qui s'était fait expulser de son mas. Et en fait, j'en ai fait quelque chose comme une saga. Enfin, si vous voulez, j'ai pris le contre-pied de ce qu'aurait pu être un récit journalistique assez objectif, du moins. Donc, j'ai pris un parti pris beaucoup extrêmement subjectif, très littéraire, etc. Alors, ça avait beaucoup plu. D'ailleurs, à tel point que même des scientifiques recommandaient, par exemple, dans le domaine, bien sûr, de géographie, etc., sciences humaines, mais consacrées à histoire, consacrées à l'évolution du monde paysan, donc recommandaient de lire L'Expulsion pour comprendre quelque chose au déclin du monde paysan. Alors, c'est peut-être là que ça a commencé à me travailler. C'est-à-dire, je me suis posé la question, et entre nous, et ça nous arrivait aussi, on se posait la question de savoir qu'est-ce qui serait, on s'est toujours posé la question, qu'est-ce qui est le plus efficace pour essayer de faire avancer un peu les choses. Parce que, je vous apprends sans doute rien, à la plupart, le monde des ingénieurs est quand même un monde assez très solide, mais c'est... Le défaut de la qualité, c'est que c'est un monde très statique, très fermé, très cloisonné, etc., et qui est bon, qui campe sur ses positions, etc. Donc, essayer de toujours trouver les moyens de faire un peu évoluer les choses. Bon, alors bien sûr, il y a des débats, il y a des congrès, j'en passe, des articles, etc. Mais voilà, donc il y a de temps en temps un livre qui apporte un petit peu une note un peu discordante dans le cours général dont je vous ai parlé au tout début de mon exposé. Et alors, donc, l'histoire le récit romanesque. Alors, bon, c'était pas très facile au départ, parce qu'il faut trouver, le « là », comme je dis, c'est-à-dire, il faut trouver la clé d'entrée qui permet d'écrire un récit romanesque, sachant que, bon, on va pas emmerder les gens, quoi, parce que il y a des choses comme ça, sérieuses, que les gens peuvent lire, donc on va pas refaire ça. Alors, il faut faire tout à fait autre chose. Et ma foi, j'ai eu un peu une illumination personnelle, je ne sais pas si elle est brillante, mais ça a joué un peu comme illumination, qui était de raconter une enquête. Voilà, une enquête type, alors bien sûr complètement imaginaire en même temps, mais qui est un peu le condensé, ou dont je tire les caractéristiques de cette enquête, je les tire, bien sûr, de mon expérience professionnelle. Que je vais chercher des éléments ça et là, etc. Donc, assez vite, là, c'est venu d'un coup, ça m'a paru assez évident, j'ai peut-être eu tort, mais ça m'a paru évident, j'avais trouvé cette clé qui était donc raconter une enquête, donc après un accident, ce qui me permettait de développer, au fond, les thèses de ce livre, mais sous une forme romanesque. Donc, montrer plutôt là ce qu'on ne montre pas là. Parce que dans tous les livres, y compris les livres savants, la plupart du temps, on montre les résultats. On discute les résultats. Là, si vous voulez, on montre comment l'enquête se fait pas à pas. On interviewe les gens et pas à pas, on construit finalement, par exemple, les relations de causalité, comment l'accident a pu se produire, comment petit à petit, il s'est construit cet accident. Voilà, donc c'est ça que j'ai essayé de montrer dans ce roman. Et pour que ça soit vraiment romanesque, donc ça m'est venu aussi assez facilement. C'est peut-être facile d'ailleurs, mais voilà, j'ai imaginé un couple d'enquêteurs. Peut-être d'ailleurs ayant enquêté avec ma femme, j'ai quelques souvenirs autobiographiques. Donc j'ai imaginé un couple d'enquêteurs et qui se détestaient farouchement. Et alors, en lisant le roman, on comprendra pourquoi ils se détestent, entre autres parce que le type qui pensait... alors, les deux travaillent dans un cabinet international, bon, très... qui a pignon sur rue, et le gars pensait... Le responsable hiérarchique part en congé de longue maladie, lui pensait avoir le poste, parce que c'était le gars, le plus compétent, le plus âgé, enfin bref, et il se fait faucher la place par une jeune dame qui arrive comme ça, du siège social, très sémillante, et alors j'ai fabriqué, des cas types un peu, avec un enquêteur un peu bougon, taciturne, voilà, mal fringué, il rouspète tout le temps, et puis une jeune dame très fringante, sémillante, élégante, etc. Et alors ça flash en permanence, quoi. Voilà, parce qu'en plus, elle est la chef du gars. Alors, pour rééquilibrer un peu les choses, parce que ça aurait été trop déséquilibré en faveur de la dame, quand même, l'expert des accidents industriels, c'est lui. Et elle, c'est une experte financière. Et donc, justement, elle est venue avec lui, alors d'ailleurs à son grand dam, hein, parce qu'il s'en serait bien passé. Elle est venue avec lui pour apprendre un peu ce que c'est que les accidents industriels, etc. Quoi. Voilà. Donc, en fait, le roman est construit donc un peu sous une forme parallèle. Puisque, bien sûr, quand on mène une enquête, d'abord, on reste sur place assez longtemps. Hein, une enquête, ça ne se fait pas en 3 jours. Il faut 15 jours, 3 semaines. Hein, une usine qui a explosé, c'est pas rien. Surtout les causes organisationnelles, c'est tout un travail. Et donc, on vit ensemble, finalement, à l'hôtel. Donc, on est obligé de se supporter. Je trouvais cette situation assez drôle. Et donc, ils sont obligés de collaborer, quand même, parce que, finalement, au bout du compte, il va falloir pondre un rapport, il va falloir donner des résultats, et c'est pas évident, puisque de temps en temps, alors ils s'accrochent, il y a des chamailleries, parfois ça tourne vraiment ça devient des disputes très sévères, où ils se disent des choses très désagréables. Bon, voilà, je n'en dis pas plus. Donc voilà, deux choses. Alors, c'est presque, honnêtement, je n'avais pas du tout... je suis un peu à la croisée des chemins, puisque j'ai arrêté mon activité depuis un an. Donc, je voulais un peu couronner, à ma façon, tout ce travail avec ce livre, donc « L'accident et l'organisation ». Mais en même temps, j'étais déjà sur l'optique d'essayer quand même de continuer une petite carrière romanesque, puisque j'ai plusieurs romans sur le feu, là. Et donc, il se trouve que les deux ont été prêts en même temps, ou presque. Donc, voilà. Et j'ai trouvé que finalement, c'était une opportunité intéressante de montrer et de présenter les deux.
Voilà. Eh bien, merci.